Bonjour à tous, bienvenue sur Bac FM. Et dans cette émission, nous sommes avec Raphaël Prado pour parler de l'évasion fiscale. C'est le porte-parole d'Attaque et donc il va pouvoir nous éclairer sur ce sujet un petit peu trop peu évoqué dans notre société. Bonjour Raphaël Prado.
Bonjour.
Et merci du coup d'être présent sur Bac FM avec nous. Donc vous êtes le porte-parole d'Attaque. Déjà, qu'est-ce que c'est que Attaque ?
Alors Attaque, c'est une association qui a été créée en 1998. L'objectif dès le départ, c'était de désarmer les marchés. Il y avait une proposition de départ qui était la taxation des transactions financières. Et puis, petit à petit, on a élargi notre champ d'intervention, et notamment à la question des paradis fiscaux, puisqu'on s'est rendu compte très rapidement que c'était un trou noir de la finance et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose si on ne mettait pas au pas les paradis fiscaux.
D'accord. Et pourquoi vous avez décidé de rejoindre Attaque ?
Alors, moi, j'ai rejoint Attaque quand j'avais votre âge. Hein. Attaque est née quand j'étais au lycée. Et puis, dès que j'ai pu arriver dans une ville étudiante, quand j'ai commencé mes études où Attaque était présent, j'ai rejoint Attaque. C'était le moment du début du mouvement intermondialiste avec les premiers contre-sommets. On se rappelle, par exemple, du sommet de Seattle en 1999 ou du sommet de Gênes en 2001, où, en fait, les mouvements sociaux et le mouvement intermondialiste converger pour contester la légitimité des dirigeants du G7 notamment, ou de l'OMC ou du FMI, à prendre des décisions pour toute la planète et pour contester l'orientation libérale de la mondialisation. Donc moi, je me suis engagé à ce moment-là et je suis resté militant d'Attaque depuis 20 ans parce que c'est un outil qui me semble indispensable pour à la fois réfléchir à un autre monde et puis construire des mobilisations en essayant de construire des convergences entre les différents mouvements, puisque depuis le début, Attaque est une association qui a été fondée par un grand nombre d'organisations, de syndicats, d'associations, de journaux, et c'est un de nos objectifs, c'est de faire travailler tout le monde autour de la même table dans des objectifs qui nous sont chers de justice fiscale, de justice sociale et de justice climatique.
Et est-ce qu'il y a des mesures phares ou des lois phares que vous avez réussi à faire passer chez Attaque ?
Alors, la taxation des transactions financières ou la taxe Tobin, quand on l'a mise sur la table, on nous traitait d'utopistes, on nous disait qu'on n'avait rien compris, que c'était pas possible. 20 ans après, on peut pas dire qu'elle soit mise en œuvre telle que nous on la demanderait, mais il y a un embryon de taxation des transactions financières qui montre bien, et ça sera la même chose pour les questions d'évasion fiscale, qu'en fait, c'est pas un problème de technique, de faisabilité, mais c'est bien un problème de volonté politique. Si on a la volonté politique, on peut le faire. Alors malheureusement, depuis 20 ans, on peut pas dire que le monde se soit rapproché de nos exigences. Donc je vais pas vous donner une victoire qui serait une victoire positive sur une loi qu'on aurait fait adopter, mais c'est plutôt des victoires sur des projets qu'on a réussi à bloquer. Je pense notamment en 2005, il y avait le référendum sur une constitution européenne où Attaque avait joué un rôle non négligeable dans la campagne qui a abouti à la victoire du non. Ou plus récemment, par exemple, là, il y a quelques mois, on vient d'avoir deux belles victoires sur des projets d'implantation d'entrepôts Amazon où Attaque est mobilisée avec d'autres pour dénoncer le développement d'Amazon en France, notamment sur ses pratiques fiscales, mais c'est pas le seul reproche qu'on peut lui faire. Et là, à Montbert, en Loire-Atlantique et à Fournaise, dans le Gard, on vient d'obtenir deux victoires avec des projets d'entrepôts qui ne se feront pas.
C'est déjà beaucoup. Mais du coup, là, on vous a invité donc, pour parler d'évasion fiscale. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que l'évasion fiscale ?
Alors, c'est un terme qui ne fait pas consensus lui-même parce que, en fait, nous, on l'utilise pour montrer qu'il y a des pratiques à la fois légales et illégales et souvent à la frontière de la légalité pour échapper à l'impôt. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, Emmanuel Macron avait été interrogé par Bourdin et Plenel, et interrogé sur les questions d'évasion fiscale, il avait dit non, mais c'est de l'optimisation fiscale, et donc c'est légal, et donc circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas très grave. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pratiques qui peuvent être légales, mais qu'on considère comme illégitimes, et puis il y a la fraude fiscale, donc là, c'est les pratiques qui sont illégales. Nous, ce qu'on dit avec ce terme d'évasion fiscale, c'est qu'en fait, beaucoup de pratiques sont à la frontière de la légalité, elles peuvent sembler légales à un moment donné, mais en réalité, souvent c'est un abus de droit, une manière de détourner le droit pour échapper à l'impôt. Donc finalement, ce qu'on dit, c'est qu'elle soit légale ou illégale, elle reste illégitime, et surtout l'évasion fiscale aujourd'hui est un grave problème dont on ne parle pas assez souvent parce que ça mine le consentement à l'impôt. On nous parle toujours d'un ras-le-bol fiscal au nom duquel les gouvernements réduisent les impôts, mais en réalité, quand on interroge les Français pour savoir pourquoi il y a un ras-le-bol fiscal, ils sont surtout indignés par l'injustice fiscale et par l'idée que les plus riches échappent à l'impôt alors qu'on augmente les impôts sur les plus pauvres. Et si les plus riches échappent à l'impôt, c'est lié à de multiples explications, notamment la baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de l'impôt sur la fortune par Emmanuel Macron, mais aussi par les pratiques, encore une fois, qu'elles soient légales ou illégales, j'ai envie de dire peu importe, d'évasion fiscale qui permettent de réduire les impôts et qui permettent de comprendre qu'aujourd'hui en France, eh bien, ce qui est assez paradoxal et qui est assez surprenant, eh bien, en réalité, plus on est riche et moins on paye d'impôts. Le système fiscal est progressif, les plus pauvres payent moins d'impôts que les classes moyennes qui payent moins d'impôts que les riches, mais ça, c'est vrai jusqu'à ce qu'on arrive à peu près 95% de la population, et les 5% les plus riches, au contraire, payent moins d'impôts que le reste de la population en proportion de leurs revenus, et c'est encore plus vrai chez les 1% les plus riches, et quand on continue à rentrer dans le détail, chez les 0,1% ou les 0,01% les plus riches. Donc voilà, on est mobilisé contre cette injustice fiscale, et l'évasion fiscale n'est pas le seul problème à la source de cette injustice fiscale, mais en fait largement partie, et malheureusement, scandale après scandale, depuis plus de 10 ans maintenant, les scandales d'évasion fiscale se sont répétés, et on n'a pas vu de réponse politique à la hauteur, on a plutôt vu des gouvernements, et notamment le gouvernement français, qui font semblant de lutter contre l'évasion fiscale, qui prennent des mesures pour pouvoir dire à l'opinion publique « Regardez, on a fait quelque chose, on n'est pas resté sans rien faire », mais qui en réalité ne servent pas à grand-chose. Je prends un exemple. Après le scandale des Paradise Papers en 2017, l'Union européenne puis la France ont trouvé comme solution de faire une liste noire des paradis fiscaux. Cette liste noire, elle est absolument ridicule, puisqu'il y a les principaux paradis fiscaux n'en font absolument pas partie. Par exemple, selon cette liste, il n'y aurait pas de paradis fiscal en Europe. Donc, plutôt que de rester sans aucune réaction et de prêter le flanc à la critique pour qu'on puisse dire « vous ne faites rien », ils font des choses, mais ils ne font des choses qui ne servent pas à grand-chose pour lutter contre l'évasion fiscale. C'est pour ça qu'on dit les gouvernements font semblant de lutter contre l'évasion fiscale plutôt que de le faire réellement.
Et donc, vous parlez de cette fameuse liste noire et qui, selon vous, donc je suppose qu'il y en a en Europe. Vous pouvez nous citer certains pays où il y a de l'évasion fiscale qui se fait donc dans ces pays, et aussi de quel pays ça part, de quel pays ces richesses partent pour aller dans d'autres pays. Il y a quel type d'échange de flux qui peuvent se faire?
Alors, sur les pays de départ, j'ai envie de dire, il faut bien comprendre que la richesse, elle est surtout créée dans les pays les plus riches aujourd'hui. Hein. Donc, que ce soit les riches particuliers qui cherchent à échapper à l'impôt ou les grandes entreprises multinationales, ils sont souvent situés dans les pays les plus riches, comme la France, les États-Unis, les différents pays de l'Union européenne. Quand on regarde quels sont les paradis fiscaux qui attirent ces flux d'argent, encore une fois, qu'ils soient licites ou illicites, eh bien, il ne faut pas regarder la liste noire des paradis fiscaux, sinon vous n'allez rien trouver dedans. Vous allez apprendre que Vanuatu est un paradis fiscal, mais bizarrement, cet État n'a jamais été mentionné dans aucun scandale. Par contre, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés par les associations de lutte contre l'évasion fiscale, qui font chaque année des classements des pires paradis fiscaux. Alors, parmi ceux-ci, on retrouve la traditionnelle Suisse, qui a joué un rôle historique pour permettre aux plus riches d'échapper à l'impôt. On trouve des pays comme le Luxembourg, comme l'Irlande. Donc, eux, ce sont des pays qui sont au cœur de l'Union européenne et qui développent différentes stratégies pour attirer les plus riches ou pour attirer les sièges des multinationales. On peut penser aussi à des États, on parle beaucoup de Jersey en ce moment dans le conflit autour de la peste, mais Jersey, c'est une île qui est à 35 km des côtes françaises et qui a un paradis fiscal vraiment à nos portes. Et puis, je voudrais en citer un aussi qu'on oublie trop souvent, mais les États-Unis sont devenus de plus en plus un paradis fiscal, et notamment certains États, le Delaware ou plus récemment le Dakota du Sud, qui permettent aux grandes entreprises américaines d'échapper à l'impôt. Donc ce qui est intéressant de voir, justement, à l'inverse totalement de la liste noire des paradis fiscaux officiels, c'est que finalement, chaque grande puissance a son propre paradis fiscal. Les États-Unis ont des États en leur sein qui permettent de faire de l'évasion fiscale. Le Royaume-Uni a un certain nombre d'îles qui sont des paradis fiscaux. Et à l'intérieur de l'Union européenne, eh bien, effectivement, on a nos propres paradis fiscaux, ce qui entraîne une concurrence fiscale avec une pression sur des États comme la France pour baisser notre taux d'imposition, pour se rapprocher d'un taux comme celui de l'Irlande, par exemple. Alors après, chaque paradis fiscal a ses spécificités pour attirer qui des riches citoyens, qui des entreprises, ça peut être différentes stratégies. Mais en tout cas, voilà, ce sont des États qui aujourd'hui ne sont pas reconnus officiellement comme tels, mais qui jouent un rôle absolument néfaste, puisqu'ils sont responsables de lourdes pertes pour les différentes finances publiques. En France, par exemple, on estime, c'est pas Attac qui le dit, c'est le premier syndicat des impôts, Solidaires Finances Publiques, qui estime le manque à gagner lié à l'évasion fiscale entre 80 et 100 milliards d'euros par an. C'est une somme absolument colossale. Et avec cette somme-là, eh bien, on pourrait, par exemple, je sais que vous travaillez au lycée, moi je suis prof aussi, je ne connais pas votre établissement, mais dans le mien, les conditions sont assez déplorables en termes l'état, on va dire, des bâtiments, eh bien, on nous dit il n'y a pas d'argent pour faire en sorte, par exemple, qu'on ne se caille pas pendant l'hiver. Eh bien, peut-être que si on allait chercher l'argent dans les paradis fiscaux, on pourrait financer les services publics. Je pense bien sûr à l'hôpital qui a montré pendant la crise sanitaire et puis encore aujourd'hui que voilà, il y avait une situation de grande difficulté à l'hôpital, un manque de moyens. Vous vous rappelez peut-être d'Emmanuel Macron qui disait à des infirmières demandant plus de moyens qu'il n'y avait pas d'argent magique. Bah, nous, on prétend que de l'argent magique, enfin qu'il n'y a rien de magique, il y en a beaucoup dans les paradis fiscaux et qu'il est, c'est pour ça qu'il est urgent de mettre fin à ce scandale. Le problème, c'est que quand on regarde qui bénéficie de l'évasion fiscale, ce sont les ménages les plus riches, ce sont les plus grandes entreprises, et donc ce sont des acteurs qui ont malheureusement l'oreille des gouvernements. Et c'est vrai que quand on regarde la politique menée depuis 2017 par Emmanuel Macron, il est très clair que c'est une politique en faveur des plus riches et en faveur des plus grandes entreprises. Et je pense qu'il y a là un élément de compréhension pour comprendre pourquoi est-ce que, alors que l'État perd des recettes à cause de l'évasion fiscale, il ne va pas chercher cet argent. Eh bien parce qu'en fait, finalement, ça donne, sans développer une vision complotiste, hein, mais ça donne finalement un argument pour pouvoir dire « Ah ben vous voyez, il n'y a plus d'argent, donc on ne peut pas augmenter le salaire des infirmières, il va falloir faire des réformes. » On pense par exemple, le 1er décembre est rentré en vigueur la nouvelle étape de la réforme de l'assurance chômage, donc on va pénaliser les plus précaires au nom de la nécessaire rigueur budgétaire, au nom de la nécessaire lutte contre les déficits publics et contre la dette publique. À nous, ce qu'on prétend, c'est que si on luttait efficacement contre l'évasion fiscale, mais aussi si on revenait sur les cadeaux fiscaux faits aux plus riches et aux grandes entreprises, eh bien, on n'aurait pas besoin d'aller faire les poches des plus précaires, on n'aurait pas besoin de réduire les allocations de chômage, on n'aurait pas besoin de réduire les APL. Et donc, en fait, on constate que l'évasion fiscale est malheureusement utilisée pour justifier des mesures d'austérité à l'encontre des plus précaires, quand dans le même temps, on ne va pas chercher l'argent dans les poches des plus riches et dans les poches des grandes entreprises qui non seulement ont largement les moyens de payer, mais qui en plus, comme je l'ai expliqué, ont différentes techniques pour échapper à l'impôt.
Donc là, on va arriver un petit peu sur les limites sur lesquelles on bute sur l'évasion fiscale, et notamment du fait qu'on en parle très peu. Vous dites que... il y a énormément de fraudés et que finalement le gouvernement dit juste qu'ils n'ont pas assez d'argent. Pourquoi finalement les gens ne parlent pas assez de toute cette somme que vous avez dite tout à l'heure qui est très élevée, si j'ai bien entendu, c'est presque 100 milliards, c'est ça, d'euros de fraudés. Donc pourquoi finalement on en parle si peu et que notamment on accuse beaucoup en comparaison les fraudes aux prestations sociales qui sont beaucoup plus minoritaires en termes de valeur que ça? Pourquoi c'est un sujet si peu évoqué?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Un premier élément de réponse, moi je me rends compte en travaillant dessus depuis un certain nombre d'années, c'est que c'est quand même un sujet assez technique, assez compliqué, assez aride, et qui n'est pas spontanément compréhensible par la population, parce que les flux dont on parle sont très complexes. C'est pas simplement on envoie l'argent en Suisse. En général, il y a des mécanismes qui font intervenir différentes sociétés écrans dans différents paradis fiscaux pour que les autorités ne puissent jamais retrouver cet argent. Mais au-delà de cette idée de complexité, je pense vraiment qu'il y a un intérêt de la part des classes dirigeantes à pointer du doigt les plus pauvres, et on le voit dans la campagne électorale. Si je prends un Zemmour, par exemple, Zemmour développe un discours raciste, sexiste, violemment islamophobe. Mais pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Si on regarde dans le détail, en fait, le programme politique et le programme économique qu'il développe, il est assez proche de celui de la droite et de Macron. Il s'agit toujours de repousser l'âge de la retraite, de refuser d'augmenter les salaires. Et si on regarde bien, en fait, ce discours, il est servi par une forme de... On trouve un bouc émissaire. Alors, hier, c'était le juif. Aujourd'hui, c'est le musulman. Plus généralement, ce sont les immigrés. Ce sont les gens qui ne sont pas des bons Français. Et finalement, moi j'ai l'impression, quand je regarde la campagne électorale, que on a des candidats qui se battent tous sur des thèmes les plus sécuritaires possibles, les plus identitaires possibles, les plus anti-immigrés possibles, pour mieux faire oublier finalement qu'ils veulent mener une politique en faveur des plus riches, poursuivre la politique néolibérale qui est menée depuis les années 80. Et du coup, il est très important dans ce contexte-là que les Français aient l'impression que leur situation se dégrade, non pas à cause des grandes entreprises qui font des profits et qui refusent d'augmenter les salaires, non pas à cause des plus riches qui s'enrichissent toujours plus tout en échappant à l'impôt, mais que nos difficultés viendraient du plus pauvre que nous, viendraient du plus précaire que nous. Alors c'est comme ça qu'on va vous expliquer que il y a des salauds de pauvres qui fraudent le RSA, par exemple. Alors que si on regarde les chiffres, en réalité, il y a bien plus de monde qui auraient le droit au RSA et qui ne le demandent pas, plutôt que de gens qui fraudent le RSA. Le non-recours au RSA représente un montant bien plus important que la fraude au RSA. Et puis on vous explique aussi que il y a ces salauds d'immigrés qui viennent en France pour bénéficier de nos allocations familiales ou de l'aide médicale d'État. Moi je pense qu'en fait tout ça c'est une stratégie pour que les Français, et notamment les catégories populaires, détournent leur colère, et plutôt qu'ils soient en colère contre les élites qui ne font rien pour lutter contre l'évasion fiscale et qui se gavent depuis trop d'années, et bien que notre colère elle soit exprimée contre les immigrés, contre les musulmans, contre les plus pauvres que nous. Je pense que c'est une stratégie qui est totalement assumée de leur part, et c'est vrai que quand on regarde la convergence des propositions d'un point de vue économique entre Macron, Ciotti, Pécresse ou Éric Zemmour, on a ce même continuum de personnes qui en permanence nous font des débats à la con, désolé d'être vulgaire, hein, mais allez, un jour on va parler du prénom des immigrés qu'ils devraient choisir, un autre jour on va parler du nom des marchés de Noël, que sais-je, pour éviter de parler des vrais problèmes, et pour éviter qu'on pose la question centrale, comment ça se fait que la richesse augmente, il y a de plus en plus de riches, et en même temps il y a de plus en plus de pauvres. C'est ça, il me semble, la question centrale, et dans la campagne qui s'ouvre, on voit bien que notamment dans les médias qui appartiennent aux milliardaires et qui n'ont pas intérêt qu'on en parle, eh bien, on se sert des thématiques comme l'immigration ou comme l'insécurité comme des manières de détourner le débat et d'orienter la colère des gens contre plus pauvres que nous, contre plus précaires que nous, contre plus fragiles que nous, pour mieux oublier que peut-être que si on allait regarder chez les plus riches ou chez les grandes entreprises, eh bien, il y aurait de l'argent qui permettrait à tout le monde de vivre décemment sur cette planète.
Bah alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est si grave en soi l'évasion fiscale, et est-ce qu'il n'y a pas des avantages à cette évasion ?
Ah, certainement qu'il y a des avantages, mais le problème c'est que les avantages, ce sont pour ceux qui la pratiquent, ce sont pour les plus riches et pour les grandes entreprises. Par contre, nous, en tant que citoyens, on est perdants à tous les niveaux. Quand vous avez un lycée qui se dégrade, quand vous attendez des semaines pour avoir une place en crèche, quand vous attendez des heures au service d'urgence, on y est perdant aussi en tant que salarié. Et un certain nombre d'entreprises qui refusent d'augmenter les salaires en disant « mais vous comprenez, on ne fait pas beaucoup de bénéfices ». Sauf que quand on regarde en détail, je prends l'exemple de McDo par exemple, eh bien McDo se déclare incapable d'augmenter les salaires, incapable de verser des primes à ses salariés parce que vous comprenez, on ne fait pas beaucoup de bénéfices. Ben oui, mais en même temps, le bénéfice, tu le déclares artificiellement au Luxembourg. Donc on y est perdant en tant qu'usager des services publics, on y est perdant en tant que salarié, et je pense qu'on y est aussi fondamentalement perdant en tant que citoyen parce que cette évasion fiscale, elle nuit au consentement à l'impôt, et je pense que c'est dangereux une société dans laquelle les citoyens commencent à se dire « Ah, bah puisque les autres ne contribuent pas, bah moi, il n'y a pas de raison que j'y contribue. » Parce que plus que jamais, on a besoin de services publics, on a besoin d'une protection sociale, et donc on a besoin que l'État puisse engager les dépenses, et pour cela, il a besoin d'avoir des recettes. Et la question, c'est qui va payer ces recettes ? Est-ce qu'on met en place un système où chacun contribue selon ses capacités, comme le déclarait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, ou est-ce qu'on met en place un système où de plus en plus, ceux qui payent l'impôt, ce sont ceux qui ne peuvent pas y échapper ? Quand on regarde la tendance depuis 30 ans, les entreprises payent de moins en moins d'impôt sur leurs profits, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés. Les particuliers les plus riches payent de moins en moins d'impôt, c'est la baisse de l'impôt sur le revenu, c'est la suppression de l'ISF. Et alors, qui est-ce qui paye des impôts ? Ben, ce sont ceux qui ne peuvent pas. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi est-ce que les taxes sur la consommation, notamment la TVA, eh bien, représentent une part de plus en plus importante des impôts. Parce que les pauvres, ils sont nombreux, ils consomment en France, et eux, ils vont pas aller faire un schéma d'évasion fiscale pour pouvoir déclarer leurs revenus au Luxembourg, parce qu'évidemment, leurs revenus sont trop faibles, ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, ils consomment. Et c'est vrai que quand on regarde la tendance ces dernières années, eh bien, de plus en plus, le système fiscal repose sur la consommation, alors que c'est profondément injuste, puisque la TVA est un impôt qui est proportionnel sur notre consommation, et chacun peut comprendre que plus on est riche, plus on épargne une partie de son revenu, et donc plus on est riche, plus la TVA représente une faible part de son revenu. Et ça contribue à ce que j'expliquais tout à l'heure, à cette aberration qui fait qu'aujourd'hui en France, les très riches payent moins d'impôts que les classes moyennes en proportion de leurs revenus.
Juste une dernière question. Du coup, comment on remarque cette fraude fiscale et comment nous, en tant que citoyens, on peut agir pour qu'elle n'ait pas lieu finalement ?
Je pense que ce qui est central, c'est d'augmenter la pression citoyenne. Hein. On voit bien que puisque les pouvoirs politiques n'ont pas réellement de volonté de s'attaquer à ce problème, eh bien, les lignes bougent quand il y a une forte pression. Alors ça s'est passé notamment selon les différents scandales. Hein. On a pu voir dans certains pays, par exemple, des manifestations monstres pour dégager un responsable politique qui était accusé de pratiquer l'évasion fiscale. Nous, c'est le pari qu'on fait à ATTAC, c'est de dire, mais c'est le même qu'on pourrait faire, par exemple, sur comment faire pour lutter contre le dérèglement climatique, hein, c'est que puisque nos dirigeants ne pensent qu'à court terme et ne pensent qu'à l'intérêt des classes dominantes, eh bien, il est urgent de faire en sorte que ça soit la population, la pression populaire qui fasse bouger les lignes. Par exemple, ATTAC va mener ce week-end une action un peu partout en France de désobéissance civile où on va aller, alors on appelle ça prélever à la source des multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale comme Amazon, comme BNP, comme Total ou comme McDonald's. Et on encourage vraiment les citoyens à passer à l'action. Alors avec ATTAC ou avec d'autres organisations, je suis pas en train de me dire que le seul moyen de lutter contre l'évasion fiscale, c'est de rejoindre ATTAC, hein. Mais c'est vrai qu'on a besoin, je pense, de ces différentes actions qui permettent non seulement de faire en sorte que ce débat soit à l'agenda politique, parce qu'en fait, on se rend compte que quand les associations ne se mobilisent pas sur ces questions-là, et bien, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un sujet qui va vite passer à la trappe. On a eu plusieurs scandales ces derniers mois, notamment les Pandora Papers ou des nouvelles révélations sur le scandale qu'on appelle Cumex, et à chaque fois, c'est repassé directement à la trappe, on n'en a plus parlé. Donc nous, on pense que c'est par la pression citoyenne, par des actions diverses et variées, qui peuvent prendre des formes vraiment très diverses, hein, on n'est pas obligé de faire une mode d'action proposée par ATTAC, mais c'est parti ces actions diverses et variées qu'on fait en sorte que ce sujet soit et restera sur la table et que les pouvoirs publics seront obligés de rendre des comptes sur mais comment ça se fait que vous n'avez rien fait depuis tant d'années alors que scandale après scandale, on mesure à chaque fois l'ampleur de l'évasion fiscale. Donc voilà, nous c'est le pari qu'on fait de faire en sorte que ce sujet soit à l'agenda politique et on encourage vos auditeurs et vos auditrices à se mobiliser aussi pour que, notamment dans la campagne électorale qui s'ouvre, les thématiques de campagne ne soient pas celles dictées par l'extrême droite, mais soient aussi d'autres thématiques, par exemple celle-là. Que fait-on pour lui mettre enfin un terme à ce scandale de l'évasion fiscale ?
Eh bien, justement, j'avais une dernière question. C'était à l'approche de ces élections présidentielles, justement, quel candidat a inclus dans son programme une lutte contre l'évasion fiscale, justement ?
Alors, c'est compliqué de répondre parce qu'aujourd'hui, les différents programmes ne sont pas publiés, mais pour le répondre de manière un petit peu schématique, et notamment si je repense à la dernière campagne électorale, il est très clair que les candidats du centre et de droite et d'extrême droite ne parlent pas d'évasion fiscale, se foutent de l'évasion fiscale et vont vous faire des lignes entières sur la construction de mosquées ou ce genre de thème qui agite les pulsions xénophobes. Et par contre, globalement, je ne vais pas donner des bons points et ATTAC ne soutient aucun candidat, mais globalement, on peut dire que les candidats de gauche en font davantage à la fois un sujet central et puis font des propositions. Et d'ailleurs, très souvent, font des propositions qui sont issues de la société civile, hein, notamment, par exemple, on a une proposition qui est partagée par toutes les organisations qui luttent contre l'évasion fiscale, c'est que pour mettre fin à l'évasion fiscale des multinationales, il faut instaurer une taxation unitaire, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire semblant qu'elles déclarent leurs revenus au Luxembourg, par exemple, il faut les taxer là où elles réalisent effectivement leur activité. Et ça, c'est une revendication qu'on va retrouver dans un certain nombre de programmes de partis politiques, mais je vous encourage à aller les regarder, hein. C'est ça aussi être citoyen, c'est se faire son choix, pas simplement en regardant la télé, mais en regardant les différents programmes. Bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu tôt pour savoir ce que chacun va mettre précisément dans son programme, tout le monde n'ayant pas publié le sien.
Bien, merci beaucoup Raphaël Prado de nous avoir donné cette interview qui était très riche.
Ah oui, et de nous avoir donné toutes vos convictions, toutes ces choses qui sont malheureusement, comme vous l'avez dit, enfouies par les médias qui sont détenus par des milliardaires qui eux-mêmes, du coup, fraudent ou du moins sont amis de fraudeurs.
Alors, il est vrai que quand on regarde à qui appartiennent les journaux, beaucoup sont eux-mêmes impliqués dans les scandales d'évasion fiscale.
Ah oui. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné votre temps. C'était donc Raphaël Prado, porte-parole d'ATTAC. Et puis on se retrouve bientôt, nous, sur la radio lycéenne.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.